Alors, ce soir, comme thème, nous avons pris la victoire de la grâce sur l'Antéchrist. Donc, ce n'est pas une description de l'Antéchrist qui s'arrête à sa victoire, mais nous allons jusqu'à sa défaite. Et donc, c'est très intéressant de voir ce qui a été révélé par la Sainte Écriture sur ce fait historique qui est négligé de nos jours du fait qu'on ne veut pas parler des mauvaises nouvelles. Et donc, pourtant, c'est une révélation très précise, et nous allons voir, plus particulièrement ce soir, dans la Sainte Écriture, étant donné le nombre de références, il est bien évident que c'est un fait avéré, c'est une révélation biblique dans l'inhérence de la Sainte Écriture, c'est-à-dire la certitude de la venue de cette personne. Car suivant l'opinion commune, ça sera le singe du Christ, donc ça sera un être humain, un homme qui sera proclamé Messie au temple de Jérusalem reconstruit et qui sera le maître de la terre. Monseigneur Benson, qui était un fils d'un évêque anglican, je crois, et qui est devenu catholique et qui est devenu prêtre avec le titre honorifique de Monseigneur Chapelain, protonotaire apostolique, enfin des titres honorifiques qui donnent on appelle une personne monseigneur alors qu'elle n'est pas évêque. Monseigneur Benson a écrit un livre sur le maître de la terre, celui qui petit à petit va gouverner le monde parce qu'il aura, par son intelligence, sa bienveillance, sa diplomatie, réduit toutes les guerres. Et selon ce livre, conquis même la Chine, qui aura cessé de faire la guerre à sa demande, et tout le monde l'admirera pour avoir fait une paix, la Pax de l'Antéchrist. Et donc, mais la religion chrétienne, par contre, sera interdite. Toutes les religions seront interdites, sauf son interprétation syncrétique, c'est-à-dire unificatrice de toutes les religions, avec quand même le fait qu'il se considère justement comme le Messie biblique. Et même une sorte de récapitulation de tous les prophètes, aussi bien de Jésus-Christ que Mahomet. Et donc, tout cela est bien clair. Alors, pour une introduction originale, je prends l'introduction de Wikipédia. Mais normalement, en tant que prêtre, je pourrais avoir une certaine distance par rapport à ces articles, comment dire, plus ou moins bien faits. L'Antéchrist, ou Antichrist, est une figure commune à l'eschatologie chrétienne et islamique. Antéchrist, c'est avant le Christ. Antichrist, c'est contre le Christ. Eschatologie, c'est la science de la fin du monde, de la fin des temps, du jugement dernier, du jugement général, du commencement de la vie éternelle, avec les événements qui sont plus particulièrement dans l'Apocalypse. Mais chez les chrétiens et chez les musulmans, c'est un peu différent, puisque justement, les musulmans ne considèrent pas que Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même, et qu'il n'est pas mort sur la croix. Toutefois, ils considèrent que Jésus va revenir pour terrasser l'Antéchrist. Plus précisément, cette figure de l'Antéchrist apparaît dans les épîtres de saint Jean et dans la deuxième épître aux Thessaloniciens de saint Paul, sur des formes variables, puis ses origines dans la notion d'antimessie qui était présente aussi dans le judaïsme. Le terme désigne parfois un individu, parfois un groupe ou un personnage collectif. Cette figure d'imposteur maléfique qui tente de se substituer à Jésus-Christ a nourri de nombreuses spéculations et interprétations dès les premiers développements du christianisme à travers la littérature des premiers évêques, qu'on appelle les pères de l'Église. On a donc la littérature patristique, qui se sont enrichies encore au fil des siècles, situant l'intervention de l'Antéchrist lors des dernières épreuves précédant la fin du monde. Dans l'islam, diverses traditions prophétiques ou divers écrits ajoutés au Coran, qu'on appelle des hadiths, H-A-D-I-T-H-S, mettent en scène Al-Jahl. Je prononce sans doute mal. D-A-J-J-A, circonflexe, L. L'imposteur, l'équivalent de l'antéchrist, dont la venue est un point déterminant de l'eschatologie musulmane, de la science de la fin des temps musulmane. Donc quand vous discutez avec un taxi musulman, quand vous discutez avec un serveur musulman, quand vous discutez avec un musulman, lui, ça, il connaît ça par cœur. C'est quand même curieux. Vous pourrez demander à des jeunes gens qui sont passés par les catéchismes ordinaires, et bien je peux vous assurer que la fin des temps, le retour du Christ, c'est vraiment une des dernières choses qu'on peut enseigner. Et pourtant, sur le fronton de nos églises, de nos cathédrales, la fin des temps était toujours représentée de manière très forte. Mais c'est sûr que lorsqu'on est un peu trop apocalyptique et intéressé par la fin du monde, on est au courant de tout ça, mais ça manque quand même parce que c'était véritablement enseigné. C'est la raison pour laquelle vous avez l'an 1000 qui aurait vécu une certaine peur de cette arrivée du Christ, étant donné le chaos civil qui avait lieu dans les années 900. Nombre de personnages, de personnalités, voire d'entités sont assimilés à l'Antichrist au cours des siècles. On a estimé que Napoléon, par exemple, était l'Antichrist. Et jusqu'à nos jours, essentiellement dans des contextes ou épisodes eschatologiques et millénaristes. Par exemple, Staline. Vous voyez. Et donc, ici, je continue cet article de Wikipédia qui est intéressant dans son résumé très fort, mais ensuite nous verrons des textes plus sérieux. Le mot antéchrist vient du grec antichristos, par l'intermédiaire du latin médiéval antechristus, mot qui vient du latin ecclésiastique antichristus. Bien que la transformation du préfixe anti contre en ante, avant, daterait du XIIe siècle, on trouve la forme antichrist chez François Rabelais. Et dans les traductions récentes, on va dire antichrist. On revient à la première formulation. Malgré cette transformation, le mot antéchrist signifie adversaire du Christ et non celui qui vient avant le Christ. Oui et non. Et de même, en latin, antéchristus et antichristus sont synonymes. Bon, je crois vrai. Ça, c'est Wikipédia. Voilà. Et donc, le mot antichristos est utilisé au pluriel dans les épîtres de Jean, désignant ceux qui se détachent de la communauté par leur refus de la reconnaissance de la pleine divinité du Christ ou de son incarnation. Ce sont des antichrists. Des antichrists au pluriel, dans l'épître de Saint Jean. Par la suite, différentes représentations de personnages mythiques d'antéchrist seront modelées tant par l'eschatologie juive, comme Antiochus Épiphane, qui avait martyrisé un très grand nombre de juifs pieux, il voulait les obliger à adorer les dieux romains, et il fera des sacrifices absolument terribles de personnes. On pensait que c'était la fin des temps, mais le Messie n'était pas encore venu. En français, dès le XIIe siècle, le mot a désigné tout à la fois dans une acception populaire péjorative un méchant homme, ou dans des acceptions didactiques un esprit du mal devant apparaître à la fin des temps, ou encore un adversaire du Christ, un apostat. Alors, ici, il cite une tradition synagogale, intéressant, qui aurait été prélevée du manuscrit 2Q246 à Qumran, dans les manuscrits de la Mer Morte. Traduction de Wikipédia. Bon. Après nombre de tueries et des massacres, un prince des nations se lèvera. Le roi d'Assyrie, c'est la Syrie actuelle, et d'Égypte, il règnera sur le pays, lui seront assujettis et tous lui obéiront. Son fils également se rappeler le grand et se rappeler fils de Dieu. Ils s'appelleront fils du Très-Haut. Mais tels les météores que tu as aperçus dans ta vision, tel sera son royaume. Ils ne régneront qu'un petit nombre d'années sur le pays, tandis que les peuples piétineront les peuples et que les nations piétineront les nations, jusqu'à ce que le peuple de Dieu se lève. Alors tous se reposeront de la guerre. Leur royaume sera un royaume éternel, et toutes leurs voies seront justes. Ils jugeront la terre avec équité, et toutes les nations feront la paix. La guerre disparaîtra du pays, et toutes les nations se soumettront à eux. Un autre manuscrit, le 1QM, est considéré étant lié à celui-ci, qui décrit la guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres. Et donc, bon, ça c'est le, il y avait une tradition synagogale de l'arrivée de l'Antéchrist. Alors, moi, je vais quitter un peu l'islam, le christianisme, pour vous dire un tout petit peu la tradition musulmane. Apparaissant dans la tradition musulmane, il fait mention d'une figure et fait mention d'une figure eschatologique appelée le Djal, le trompeur ou l'imposteur, ou le faux messie, correspondant à l'antéchrist. C'est un faux messie qui apparaît à la fin des temps. Certains courants l'identifient à la bête d'Abba, dont parle le Coran, qui sort de terre parmi d'autres signes annonciateurs. Et donc, d'autres le confondent avec Iblis, qui est Satan en personne, Lucifer. Ce personnage ignoble et perfide est présenté avec insistance comme étant borgne. Oui. Et doit ainsi apparaître juché sur un âne blanc à la tête de l'armée d'ennemis des imams, à partir d'une terre d'Orient, appelée Khorasan, pour répandre l'iniquité et la tyrannie sur le monde durant 40 jours, ou 40 ans, symbolique. Il restaurera le paganisme, l'adoration des idoles, avant d'être combattu par Jésus. La tradition musulmane mentionne aussi Al-Mahdi, un autre personnage important de l'eschatologie islamique. Pour les chiites, il correspond au 12e imam, invisible, qui revient. Il a disparu en 940. Cette affirmation est contestée par les sunnites, qui est la communauté la plus importante, des musulmans, qui ne reconnaissent pour l'heure que 4 califes orthodoxes. Il ne pourra éliminer physiquement l'antéchrist, éliminer physiquement l'antéchrist que Issa, Jésus. Alors voyez, quand vous discutez avec un taxi, mais le conducteur du taxi, vous avez Iblis, ça fait tilt, vous avez Lucifer, Jaal, c'est l'antéchrist, et Issa, c'est Jésus. Né de la Mariam, Marie, Vierge, qui descendra au minaret blanc à l'est de Damas. Donc pour eux, la Syrie, c'est important. C'est la descente d'Issa. Jésus revient, mais à Damas. Oui. Pour la tradition sunnite, c'est Issa lui-même qui combattra l'antéchrist, le Jaal. Pour certains, Issa sera remplacé par le Mahdi, le sauveur eschatologique. En effet, certains théologiens musulmans ont tantôt réfuté l'existence du Mahdi, tantôt le retour du Messie, qui, après la mort de Jaal, se mariera, aura des enfants et sera enterré à côté de Mahomet, au cimetière d'Al-Baqi à Médine. Bon, là, d'autres vont dire, donc les théologiens musulmans se disputent largement, hein. Issa lui-même tue l'antéchrist à la porte de Lod, ainsi que celle où le Mahdi a comme principale caractéristique de combattre non pas l'antéchrist lui-même, mais son armée. On est bien avancé. Les deux courants sunnites et chiites s'accordent globalement sur la description du personnage de l'antéchrist appelé Jaal. Cependant, dans le chiisme, l'antéchrist ne possède pas la même valeur dogmatique, ni même son opposant, Al-Mahdi. Ce dernier correspondant également au dernier imam caché, censé appartenir à la descendance de Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète Mahomet et quatrième calife de l'islam. Je vous dis tout cela pour que vous compreniez qu'il y a dans la tradition musulmane un emprunt de l'eschatologie chrétienne. Vous voyez ? Il fallait aussi attirer les chrétiens. Alors, maintenant, nous allons aller dans ce qui est vrai. Alors là, c'est beaucoup plus intéressant. Faites pénitence, dit saint Pierre, dans un discours qu'il adressait aux Juifs le lendemain de la Pentecôte. Faites pénitence et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés pour les temps du rafraîchissement, c'est-à-dire de la rédemption totale et complète, que le Seigneur doit accorder lorsqu'il enverra de nouveau Jésus-Christ qui vous a été donné. Car il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses que Dieu a promis par la bouche de ses saints prophètes depuis le commencement des siècles. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 19 à 21. Donc, Saint-Pierre sort du Cénacle, et qu'est-ce qu'il dit ? Il ne dit pas seulement que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité, mais il dit qu'il va revenir, il parle déjà de l'eschatologie. Préparez-vous à son retour. Imaginez celui qui aurait déjà, il se serait mis en, il dit, eh ben, je vais rentrer chez moi, je vais me mettre en prière pour attendre. Vous voyez? Hein? Vous voyez? Ça fait 1990 ans qu'il attend. Ça doit être une petite maison, un ermitage du côté de Jérusalem. Voilà. Il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Alors, dans la liturgie réformée de 1969, on n'arrête pas de dire, on n'arrête pas de parler du retour du Christ. Et qu'il n'y a pas dans le missel Saint Pie V, c'est amusant. Vous voyez, Donec veniat. Hein. Annunciamus, parce qu'il faut prendre le missel dans la traduction latine de 69, la traduction, l'original latin, il dit, comment dire, c'est... Il est grand le mystère de la foi, mysterium fidei en latin, et on répond en français, il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, et nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous attendons ta venue dans la gloire. C'est une acclamation qui est dans la Sainte Écriture. Mysterium fidei, annunciamus mortem tuam et resurrectionem tuam, donec veniat. En latin, c'est bien plus court. Hein? Annunciamus domine. Et c'est assez joli en latin parce qu'ils ont pris une mélodie grégorienne. Et donc, jusqu'à ce qu'il revienne. Mais Saint-Pierre, il commence comme ça. Bon. Mais cette seconde venue sera tout à l'opposé de la première. Venu une première fois dans l'humilité et la faiblesse, il viendra la seconde fois dans la majesté et la puissance. Et alors, Matthieu, chapitre 24, verset 30, vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande majesté. C'est Jésus qui le dit. Venu une première fois en victime, venu pour être jugé et condamné, il reviendra la seconde fois en vainqueur, pour juger et pour condamner à son tour. Donc nous avons encore le temps de la miséricorde en ce moment. Vous voyez, on peut se convertir, on peut pécher, on peut se convertir, on peut faire plein de choses, sauf au jugement particulier qui est notre mort. C'est notre petit jugement, c'est notre petite fin du monde personnelle. C'est lorsque vous êtes en trottinette et que vous avez un bus qui vous coupe la route. Et là, vous êtes envoyer auprès de vos pères, ad patres. Et là, vos pères disent, il faut passer un petit examen. Et c'est notre Seigneur qui vous juge sur place. Imaginez être jugé dans un carrefour. Moi, je préférerais avoir un beau crucifix derrière moi, dans mon lit, les mains jointes, avec deux, trois personnes en train de prier. Voilà, mais bon. Citation. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa majesté et tous les anges du ciel avec lui, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations s'assembleront autour de lui. Il séparera les bons d'avec les mauvais, comme le pasteur sépare les brebis d'avec les béliers. Et comme on arrache l'ivraie pour être lié en bottes et brûlé, ainsi en sera-t-il à la consommation du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui enlèveront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise du feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Chapitre 13 et 25 de Saint Matthieu. Le mal, en somme, ne peut s'éterniser dans ce monde. Il faut qu'il ait sa fin. Il faut nécessairement que, sur cette terre baignée de son sang, Jésus ait son règne un jour, et le bien par lui son éclatante revanche. Ce dont encore il avertit ses juges, alors même où il prononce la sentence de mort contre lui. Le grand prêtre l'adjurant de lui dire s'il est vraiment le Christ, le Messie, et le Fils du Dieu vivant, mais pas au sens... pas au sens du Fils de Dieu dans consubstantiel, hein. Mais comme Jésus va répondre par une image divine, il va déchirer ses vêtements, parce qu'il va se présenter sur les nuées. Or la nuée, c'est la présence de Dieu au milieu du peuple juif dans le désert. Donc celui qui est sur la nuée, c'est Dieu. Sur un tourbillon de nuages pendant le jour, et un tourbillon de nuages en feu la nuit. Je le suis, répondit-il, et vous me verrez un jour venant sur les nuées du ciel, investi de la puissance même de Dieu. Donc là, vraiment, c'est solennel. Et donc, au moment même où il a été arrêté, déjà frappé, et enchaîné, devant le grand prêtre, il lui dit, je suis Dieu, venant sur les nuées du ciel. Son aspect n'a pas l'air très divin à ce moment-là. Mais quel culot de dire ça. C'est comme lorsque, donc, et ensuite il va être mis dans les prisons de la maison du grand prêtre, dans des culs de battes fausses, des prisons droites creusées dans le sol, et ensuite présenté à Ponce Pilate. Et il dit à Ponce Pilate, eh bien, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si je le demande à mon père, une légion d'anges viendrait me délivrer de toi. Et ton péché est moins grave que celui de ceux qui me livrent à toi. Donc là, il est en train de lui dire qu'il est roi, qu'il a une armée, mais que ce n'est pas un royaume terrestre qu'il est venu instaurer. L'autre a suffisamment peur en tant que païen pour vouloir le libérer à tout prix, mais il aura trop peur. Et au moment de l'ascension, vous avez le Christ qui part et qui leur demande d'aller dans toutes les nations pour baptiser au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Et alors que notre Seigneur monte vers la lumière du ciel, qui est le signe de la vie divine, le ciel lumineux, ce même ciel qui quelques heures plus tard sera sombre. Le Christ, on ne sait pas où est actuellement le Christ, où est actuellement la Vierge Marie. Ils sont pas sur un nuage ou sur une planète, mais ils sont quelque part, avec leur corps, leur sang, leur âme. Et là, les anges disent, homme de Galilée, car beaucoup étaient de Galilée parmi les apôtres, homme de Galilée, pourquoi demeurez-vous là, les yeux fixés en haut? Ce Jésus qui, au milieu de vous, vient de s'élever dans le ciel, en reviendra de même que vous l'avez vu monter. À nouveau, vous voyez, vous êtes dans un moment très important où vous avez l'un d'entre nous qui entre dans la vie divine publiquement et officiellement, puisqu'il était dans la vision béatifique, hein, Jésus, dès le premier instant de sa conception, dans sa nature humaine. Donc c'est l'officialisation de son union dans hypostatique, c'est-à-dire dans la personne du Verbe. Et voilà que les anges disent déjà, il reviendra. Vous voyez ? C'est curieux, hein ? Pas rien. Hein ? Ce second avènement, qui sera une surprise pour le monde, doit faire que tout chrétien vive dans un état d'attente et de préparation continuelle. De ce jour et de cette heure, nul ne sait rien, pas même les anges du ciel. Le Père seul le connaît. Jésus. Comme l'éclair fend la nuée et apparaît soudain de l'Orient à l'Occident, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Donc Jésus, quand il va revenir, si vous voulez, on sera dans des conditions antéchristiques, mais la fin du royaume de l'antéchrist sera brutale. Et il en sera comme au jour de Noé, et comme au jour de Lot, alors que les hommes bâtissaient des maisons, se mariaient, se divertissaient, sans songer au déluge qui les engloutit tous, à cette pluie de soufre et de feu qui les consuma tous. Vous voyez, l'antéchrist régnera, ses serviteurs et ses complices s'amuseront, ceux qui voudront fonder une famille, avoir des enfants, le pourront pas ou difficilement, ou seront dans les persécutés à gauche, à droite. On ne pourra pas enseigner ses enfants comme on voudra, ben, il n'y aura qu'une seule école, il n'y aura qu'un seul gouvernement, qu'une seule banque, ça sera bouclé. Et alors qu'on sera là à continuer à prier, à aller visiter les prêtres en prison, ou dans des caves, ou dans des placards, ou des choses comme ça, voilà. Eh bien, alors qu'on se dira, mais comme dit Jésus, si ces jours ne sont pas abrégés, même les élus seront en risque de tout lâcher. Et là, le Seigneur revient en gloire. Avec le feu du ciel après, hein, mais si vous voulez, avant, probablement de manière très miséricordieuse, la venue du Christ dans sa gloire, visible de toute la terre, convertiront peut-être certaines personnes encore avant le feu du ciel. Prenez donc garde que vos cœurs ne s'appesantissent dans les festins et dans les soins de cette vie, et que ce jour ne vienne à vous surprendre, car il enveloppera comme dans un filet tous les habitants de la terre. Impressionnant. Soyez prêts, éveillés, priant continuellement afin d'être trouvés dignes d'échapper à tout ce qui arrivera et de paraître avec confiance devant le Fils de l'homme. Soyez debout, les reins saints, des torches à la main, pareils à ses serviteurs, attendant le retour de leur maître, et ne sachant pas s'il reviendra à la seconde ou à la troisième veille, sur le soir ou sur le matin. Vous voyez, tout ça, c'est les chapitres 24 et 25 de saint Matthieu. Jésus ensuite emploie la parabole pour mieux colorer sa pensée et attirer notre attention. C'est la parabole des 10 vierges qui vont au-devant de l'époux et de l'épouse. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Et donc, celles qui n'ont pas accumulé l'huile du mérite et de la grâce dans leur vie, ceux qui sont en état de grâce peuvent bien prier pour eux, les encourager, mais il y a un minimum de participation. Et en fait, elles ont le cœur sec. Elles veulent rentrer dans la salle des noces, mais sèche, vous voyez. Ouvrez-nous, Seigneur, ouvrez-nous. Et l'époux, la parabole est très belle, hein, en soi, dans l'enseignement chrétien. C'est les noces éternelles de l'agneau, c'est magnifique. L'époux, il leur dit, je ne vous connais pas. Vous voyez. Suivez là, comme toujours, la conclusion de notre Seigneur, veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Hein? C'est dans le chapitre 13 chez saint Marc, le chapitre 12 et 17 chez saint Luc. Cette nécessité d'être prêt pour sa seconde venue, tant de fois répétée par Jésus et après lui par les apôtres, persuada les premiers chrétiens d'un événement si prochain qu'ils croyaient à chaque instant en être les témoins, principalement les juifs nouvellement convertis, qu'obsédaient les flamboyantes visions du royaume messianique annoncées par le prophète. Quand ils ont vu les armées romaines arriver et détruire Jérusalem, ils disent « Voilà, Jésus va revenir ». Ben non, il n'est pas revenu. Voilà. Plusieurs, effectivement, quoique notre Seigneur, loin de parler de sa venue dans un délai rapproché, lui donnait le contraire à entendre en différents endroits, ainsi dans cette parabole des vierges, où il dit que l'époux tardant à venir. Et c'est vrai, ça. À un moment donné, vous savez, c'est aussi la parabole du roi qui part en voyage. Et comme il tarde à revenir, on tue les serviteurs, on fait n'importe quoi. Le roi revient, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Eh oui. Il y a vraiment du temps. Par exemple, vous avez les mystiques actuellement, ou reconnus par l'Église, ou pas reconnus par l'Église, vous dites, c'est maintenant, c'est vite, c'est là. Ah oui ? Ah, très bien. Hein, si, monsieur l'abbé, tout ça. Ah, très bien, très bien. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 9 ans, 10 ans. Ben moi, non, pas de 1000 ans, j'ai pas 1000 ans. Hein, mais j'ai un mystique qui m'a dit, voilà, Matignon sera ravagé, il y aura une guerre civile. Alors, il a fait des compléments récemment. Il m'a dit, tremblement de terre, réveil des volcans. Donc c'est absolument classique, c'est Marie-Julie Johanny. Enfin, elle est morte dans les années 50. Mais c'est terrible d'être comme ça, d'être suspendu. Quand on est mystico-dingo et qu'on regarde toutes les prophéties toutes les 2 minutes, on se dit mais c'est pas possible. Hein, ça apprend la patience. Hein. Le marquis de La Fancrie est mort. Il en a fait des livres entiers. Il a attendu. Et puis voilà. Remarquez, c'est notre Seigneur est venu, mais pour lui uniquement. Toutes s'endormirent et s'endormirent profondément. Et dans la parabole de cet homme qui, partant pour une contrée lointaine, confie à ses serviteurs la gestion de ses biens et ne revient qu'après un très long temps. Vous voyez ? Moram autem paciente sponso. Dormitaverunt omnes et dormierunt. Ça, c'est juif. Elles dormirent toutes et elles dormirent. C'est vraiment, ça veut dire que c'est Saint Matthieu, chapitre 25, verset 5. C'est, l'original est en hébreu. Hein. Dormitaverunt omnes et dormierunt. Hein? Elles dormirent toutes et elles dormirent. Franchement, on se dit, mais c'est quoi? C'est un hébraïsme. Comme dans la Genèse, Dieu dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit de la science du bien et du mal, vous mourrez de mort. Ah, on ne mourra pas d'une crise cardiaque ou de cancer, non, de mort. Mourir de mort. Vous voyez, c'est les siècles des siècles. Vous voyez, c'est un hébraïsme. Et là, vous avez la même chose dans Saint Matthieu, chapitre 25, verset 19. Post multum vero temporis. Venit dominus servorum illorum et posuit rationem cum eis. Après beaucoup de temps, le Seigneur revint. Et le seigneur de ses serviteurs revint et il demanda compte de leur gestion. À tel point que saint Pierre crut devoir prémunir les fidèles dans une lettre spéciale contre ces impatiences, pieuses sans doute, mais dangereuses, qu'exploitaient les adversaires. Il y a une chose, mes bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Ainsi, le Sauveur n'a point retardé l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns se l'imaginent, mais il agit patiemment à cause de vous. Et écoutez bien, car c'est un grand principe, une magnifique révélation de l'amour de Dieu, ne voulant pas que personne périsse, mais que tous reviennent à lui par la pénitence. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans l'attente de ces choses, vivez en sorte que le Seigneur vous trouve pur, irréprochable et dans la paix. Et croyez, que la longue patience de notre Seigneur est pour votre bien. C'est ainsi que Paul, notre très cher frère, donc Pierre parle de Paul, hein, qu'il a remis en place devant tout le monde, hein, comme il le dit dans l'Épître aux Galates. Et c'est impressionnant, hein. Vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'était dans aux Thessaloniciens. C'est très beau parce que dans la deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 3, Saint Pierre évoque la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Donc il connaissait les correspondances qui avaient été données à lire aux communautés.